Voilà, bonjour à tous. Voilà, si je suis habillé comme ça ce matin, comme quelqu'un m'a dit, ce n'est pas à cause de la fête nationale ou que je suis nationaliste. Non, 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 ce n'est pas du tout le cas. Même Patrick m'a dit, tu peux faire la croix, il manque la croix. Non, non, c'est un hasard, hein, si jamais je ne suis pas nationaliste. J'aime mon pays, bien sûr, mais voilà. Non, ce que j'aimerais partager ce matin, c'est une autre fête, que je pense qui est de circonstance. J'aimerais parler de la Pentecôte ce matin avec vous. Et je ne sais pas si pour vous, cette fête, je dirais, en dehors du cercle chrétien, qu'est-ce qu'elle représente? Quand vous discutez avec les gens de la société qui ne connaissent pas le Seigneur, est-ce que les gens ont conscience de ce que représente et de ce que signifie cette fête? Je vois qu'il y a des têtes qui disent non. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est que malheureusement, si vous demandez c'est quoi Pentecôte, personne ne sait vraiment répondre. Déjà pour Noël, c'est déjà un peu compliqué, mais c'est déjà plus simple. Entre le Père Noël, trois cadeaux et un sapin, on arrive à discerner que c'est quand même une fête chrétienne et que ça parle de la naissance de Jésus. Mais alors, quand on arrive à Pâques en tant que fête chrétienne, ça se complique un peu plus. Là, entre le chocolat, les lapins et je ne sais pas quoi, on a de plus en plus de peine à voir que c'est une fête chrétienne, que ça parle de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Mais alors, quand on arrive à l'Ascension et à Pentecôte, ah là là, c'est le blanc total dans la société. Alors que pour nous, c'est une fête importante de notre calendrier. Amen. Et c'est important qu'on s'arrête, qu'on prenne ce temps. Et j'aimerais le faire en trois temps ce matin. J'aimerais revisiter avec vous cette fête de Pentecôte en trois temps, en parlant de ce qui s'est passé avant Pentecôte, ce qui s'est passé au moment de Pentecôte, dans l'événement de la Pentecôte. Et ce qui s'est passé après. Vous voyez, c'est assez simple hein, ce matin. Mais vous verrez qu'il y a un mouvement que j'aimerais vous faire sentir. Très souvent, on a certaines choses qui ressortent par rapport à Pentecôte, mais j'aimerais vous faire entrer dans un mouvement avec cette fête. Vous êtes d'accord? Ça va? Vous êtes bien réveillés? Vous êtes avec moi? Ça fait plaisir. Alors, dans la tradition chrétienne, et notamment dans la liturgie, on retrouve une notion d'attente. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant Noël, il y a l'attente de Noël qui se traduit dans l'Avent. Vous êtes d'accord? On parle de Noël alors qu'il fait beau et chaud. Il est bizarre ce pasteur. Mais c'est juste pour vous faire sentir un peu ces temps d'attente qu'il y a dans les fêtes chrétiennes. Par exemple, avant Pâques, il y a aussi une notion d'attente. On attend cette fête-là au travers on a différentes traditions, du carême ou des temps de jeûne, de prière, on se prépare. Et avant Pentecôte, il y a aussi un temps d'attente qui se situe entre l'ascension, entre la montée de Jésus au ciel et le moment, l'événement de Pentecôte. C'était l'attente de la venue de l'Esprit, l'attente du revêtement de puissance. Et on va juste lire quelques versets qui vont dans ce sens de ce que Jésus dit à ses disciples dans Luc au chapitre 24 et les versets 46 à 49. C'est Jésus qui parle à ses disciples peu de temps avant qu'ils s'en aillent et il va leur dire: « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voilà, on voit que dans ce texte, Jésus demande à ses disciples une chose qui n'est pas évidente, on le verra. Il leur demande d'attendre ce qu'il leur a promis, l'Esprit d'en haut, l'Esprit de Dieu qui va être envoyé par le Père et le Fils. Et que font les disciples? Ils obéissent, forcément. Et l'évangile de Luc, qu'on a lu là, quelques versets plus loin, se termine avec cette phrase. Juste après que Jésus soit monté au ciel, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Donc, ils ne sont pas retournés, commencer à annoncer l'évangile, que Jésus était mort et ressuscité. Ils ne sont pas commencé à retravailler. On voit qu'ils étaient comme dans une position d'attente. Ils étaient dans le temple, ils louaient le Seigneur et ils étaient ensemble. Voilà comment se termine l'évangile de Luc. Et si on voit juste avant l'événement du moment de Pentecôte, dans Actes 2, on voit que juste avant, ils étaient ensemble, il est dit juste avant, ils étaient ensemble en prière dans la chambre haute et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, avec ses frères. Voilà ce qui est dit à la fin, dans le chapitre 1, juste avant que Pentecôte arrive. On voit qu'ils sont dans ce moment en train d'attendre justement ce que le Seigneur avait promis. Et ce qui vraiment caractérise cette période avant Pentecôte, c'est une attente obéissante des disciples. Voilà ce que j'aimerais un peu relever. Et ça n'a pas dû être simple pour eux. Essayons de nous mettre à leur place. Vous êtes disciples de Jésus. Déjà, il y a eu la Pâque, il y a eu la mort de Jésus. Et beaucoup étaient découragés. Ils avaient vécu tellement de belles choses avec Jésus. Et il faut se mettre à leur place. Tous les disciples n'avaient pas compris comme nous. On a nous, à la fin du film. On a tout ce qui s'est passé. Mais pour eux, au moment où Jésus est mort, ils étaient découragés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on voit que Jésus est ressuscité. Il leur est apparu. Et là, ça a été extraordinaire. Il y avait une joie. Ils ont passé du temps. Et Jésus leur a expliqué ce qu'il leur avait déjà dit, qu'ils n'avaient pas compris. Il leur a réexpliqué ce qui s'était passé. Et il a passé 40 jours avec eux. Imaginez comment, dans quel état ils devaient être. Ils devaient être pleins de joie, de dire, mais c'est génial tout ce qui va se passer. Et ils avaient peut-être envie, rapidement, ils désiraient qu'une chose, c'était annoncer à tout Jérusalem qui avait vu Jésus mourir, qui avait vu Jésus partir. Certains avaient dit, voilà, c'est un effet de mode, on est passé à autre chose. Ils n'avaient qu'une seule chose, peut-être dans leur cœur, c'était d'aller annoncer cette bonne nouvelle, que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon des péchés, que le royaume de Dieu est là. Et Jésus leur dit, stop, attendez, encore un peu de patience. On parlait de patience, moi je suis un impatient, moi je serais déjà en train de faire des stratégies, allez on y va là, on fait ça, j'aurais foncé tête baissée, c'est compliqué. Et les disciples sont exemplaires, ils attendent. C'est pas évident, hein. Moi je pense, quand je pense à l'impatience, je pense à mes enfants, au moment de Noël des cadeaux. Alors ça, c'est déjà à l'avant, alors, ils sont bien préparés là pour recevoir leurs cadeaux, ils ont déjà fait leur liste et tout ça. Et le jour de Noël arrive, et il y a encore toute la journée de Noël avec le repas et tout ça, et ils voient les cadeaux, ils sont là. ils ont qu'une seule chose, c'est, ils veulent les ouvrir, ils veulent les toucher, on doit leur dire non, pas maintenant. Attends. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué de se faire obéir dans ces moments-là. Et pourquoi le Seigneur fait ça? Bien sûr qu'il est souverain, il a des temps et des moments, mais il y a quelque chose qui me parle au travers de ça. Premièrement, c'est qu'ils ne sont pas attendus sans rien faire. Ils étaient vraiment dans la présence de Dieu, ils cherchaient le Seigneur. Et ça me parle de me dire, mais moi en tant que chrétien aujourd'hui, est-ce que je sais encore attendre? Est-ce que je sais encore rechercher cette présence de Dieu avant de foncer, avant de prendre des décisions, avant de faire ci, avant de faire ça pour le Seigneur? Est-ce que je sais attendre aussi les promesses de Dieu dans ma vie? Est-ce que je sais persévérer sur les promesses de Dieu? Parce que des fois, ça tarde. Et des fois, on a envie que ça se passe. Et je pense que les disciples étaient dans cette attitude, mais ils ont eu cette capacité d'attendre, de rester dans cette moment où ils ont cherché le cœur de Dieu. Et il n'y a aucune action de Dieu dans notre vie, il n'y a pas de Pentecôte dans notre vie, la puissance et l'action de Dieu dans notre vie sans ces temps d'attente auparavant. C'est vraiment une vérité qui me semble forte et qui était forte sur mon cœur pour notre Église. Il n'y a pas d'action de Dieu si nous ne le recherchons pas de tout notre cœur, si nous ne sommes pas tournés vers lui, plutôt que vers ce qu'on devrait avoir. Il n'y a pas de cadeau de la Pentecôte dans nos vies sans en payer un certain prix. Alors, on est d'accord que Jésus a tout payé. Il a payé le cadeau. Il a tout payé. Mais il y a notre obéissance qui est là. Le prix de notre obéissance qui est notre attente. Le sacrifice de notre temps pour lui. Vous savez, comme il y a cette histoire de Marthe et Marie, c'est pas que Marthe est moins bien que Marie. C'est pas ça l'histoire. C'est que dans l'activité, dans tout ce qu'on aimerait faire pour Dieu, il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me donner? Qu'est-ce que tu veux me communiquer? Et les disciples ont su faire cela à ce moment-là. Et je leur tire mon chapeau dans la situation dans laquelle ils étaient. Et l'Épître aux Colossiens dit au chapitre 3 et au verset 1, « Si vous êtes donc ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, pensez à ce qui est en haut. » Nous voulons commencer, nous voulons vivre des choses avec Dieu, commençons par les rechercher. Commençons par regarder en haut et pas aux choses de la terre. Commençons par peut-être aspirer aux choses d'en haut et être un peu moins occupé par les choses d'en bas. Moi, ça me frappe que quand les disciples étaient là avant Pentecôte, il y a eu ce moment où Jésus est monté au ciel et il regardait en haut. Et ils étaient dans la chambre haute et ils cherchaient les choses d'en haut et ils attendaient les choses d'en haut. Ils aspiraient aux choses d'en haut. Et est-ce que nous aspirons à être remplis de l'Esprit? Est-ce que nous aspirons aux choses d'en haut, aux dons spirituels? C'est une question que je me suis posée en préparant. Je me suis dit, mais Christian, en fait, est-ce que tu aspires vraiment? Est-ce que tu prends vraiment du temps pour chercher ces choses-là? Pour chercher dans la présence de Dieu? Ou est-ce que c'était, je me souviens, ma conversion, oh, je faisais des listes au Seigneur sur les dons spirituels. J'avais une aspiration. Je me dis, mais est-ce que c'est seulement ma conversion ou est-ce que c'est aujourd'hui aussi, Seigneur, que tu veux que je sois dans cette attitude, dans cette recherche? L'apôtre Paul, dans les chapitres très connus des dons spirituels et des charismes, justement, dans l'épître aux Corinthiens, il y a plusieurs chapitres, le 12, 13 et 14 de la première épître aux Corinthiens, où Paul va dire aux Corinthiens, va les encourager à aspirer aux dons. Et moi, ça me frappe, parce qu'au début de cette même épître, l'apôtre Paul va leur dire, vous avez tous les dons. Vous avez des dons. Et c'est vrai que quand on voit cette église, en tout cas sur l'aspect des dons, peut-être pas sur d'autres choses, mais sur l'aspect de la vie de l'esprit, ils avaient quand même pas mal. Hein. Ils avaient pas mal. Et si, déjà, on vivait un petit peu de ce que cette église primitive vivait, moi, je serais déjà content. Je serais déjà très content. Et quand je vois que Paul les encourage encore à aspirer, je me dis, waouh ! Il les encourage, alors qu'ils ont déjà beaucoup, à avoir plus. Être, finalement, pas dans une concurrence, on a plus que les autres. Mais dans cette aspiration, dans ce mouvement, dans cette attente, dans... Dieu a tellement à donner. Dieu a plus à donner dans nos vies. Il va leur dire, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, en 1 Corinthiens 14, verset 1. Il va le dire plusieurs fois. Dieu a des choses, a des cadeaux, des charismes, en grec ça veut dire cadeau. Charisme, c'est des cadeaux de Dieu en réserve pour son Église. Amen. Parce qu'on le croit, que Dieu veut donner. Mais Dieu veut donner à ceux qui y aspirent. Bien sûr que nous n'avons rien à faire, mais nous avons quand même quelque chose à faire. Nous avons à les rechercher et à y aspirer. Et si vous n'avez jamais réalisé cela, alors bonne nouvelle, on peut commencer aujourd'hui. Il n'y a pas de retard avec le Seigneur. Et peut-être que vous le faites déjà, et je vous dis bravo, et c'est bien, continuez. Peut-être que vous n'avez pas encore reçu, je vous encourage à persévérer, à continuer, à ne pas vous arrêter. À être dans cette attitude, c'est plus une attitude qu'autre chose. Dans cette attitude de prière, de cœur tourné vers les choses d'en haut. Amen. Et c'est dans ce contexte d'attente que Dieu a pu déverser son cadeau. Il a déversé son esprit sur eux. Waouh ! Acte 2, verset 1. Et on va juste lire le premier verset. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et si tu pries depuis un moment pour recevoir certaines promesses de Dieu, il y a le moment où Dieu donne. Amen. Il y a le tout à coup. Dans ce temps d'attente, il y a le tout à coup. Il y a Dieu qui arrive. Il y a Dieu qui nous surprend même. On le verra dans ce texte. Et la formulation de ce début de ce verset, c'est, en grec, c'est plus littéral, « alors que s'achevait le jour de la Pentecôte », dit le début du verset 1. Donc, les disciples sont, en fait, sont de nouveau pas en train de faire 10 000 activités, ils sont en train de vivre la fête de la Pentecôte juive, qui s'appelle Shavuot. Donc, il y a une notion de fin et d'accomplissement dans cette fête qu'ils sont en train de terminer. Donc, peut-être qu'ils allaient se quitter, je ne sais pas. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit descend sur eux. Alors, que se passe-t-il maintenant, à ce moment-là, dans cet événement de la Pentecôte, du chapitre 2 du livre des Actes? Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre avec vous, parce que voilà, c'est un peu long. Mais gardez vos Bibles ouvertes, gardez vos smartphones ouverts pour lire avec moi. Et on va en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pendant ce moment, cette visitation de l'Esprit? Deux, trois remarques rapides. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais juste relever quelques pensées pour nous ce matin, pour notre Église. Tout d'abord, il y a la dimension communautaire. L'Esprit est donné au corps, à l'Église, à un groupe, et pas seulement à une individualité. Il y a trop de gens qui disent « j'ai l'Esprit ». Non, c'est le corps qui a l'Esprit. C'est le corps de Christ. Parce que l'Esprit met en mouvement le corps, met en mouvement les différentes, apporte la vie. C'est lui qui est l'essence, qui coordonne ce corps. Et ils étaient tous rassemblés. Et même, c'est quelque chose qui était une unité qui était déjà là avant. Au chapitre 1, il dit qu'ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Il y a cette notion de corps à ce moment-là déjà. Et c'est l'Esprit qui unit, qui est donné au corps qu'est l'Église. Jésus sauve individuellement, certes, mais l'Esprit nous agrège, ça veut dire nous greffe au corps qu'est l'Église. C'est la fonction de l'Esprit. C'est pour ça que certains disent mais que l'Église a commencé, il y a tout un débat, hein, quand a commencé l'Église? Certains disent que l'Église a commencé là, à Pentecôte. D'autres disent, mais non, il y avait déjà cette notion de corps avant, etc. Donc voilà, c'est des débats de théologiens, mais on ne va pas s'immiscer là-dedans ce matin. J'aimerais juste dire que ce matin, l'Église, c'est d'abord un « vous » avant d'être un « tu ». Dieu se manifeste le plus souvent dans des rassemblements de disciples de Jésus. C'est dans des rassemblements, des grands, des petits, dans ces moments-là, que l'Esprit agit particulièrement. Et il faut en avoir conscience. Un prédicateur très connu disait qu'il voulait louper aucune réunion, parce qu'il dit, si le Saint-Esprit passe à ce moment-là, je veux être là. Donc voilà, c'est l'Esprit a passé, j'imagine, je vous laisserai lire son témoignage, son idée, ça me vient comme ça. Dieu se manifeste à ce moment-là. Deuxième pensée par rapport à cet événement de la Pentecôte, c'est le tout à coup, un vent violent, des langues de feu. Quel programme, hein? Tout à coup, un vent violent, un souffle violent, comme tout à l'heure, la pluie qu'on entendait un peu forte, là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu, l'action de Dieu est surprenant, l'action de Dieu est renversant. Parfois, on s'imagine que Dieu doit intervenir comme ci ou comme ça. Oh Seigneur, ta présence, un doux murmure, doux et léger, une sorte de paix qui m'inonde. Mais parfois, ça peut être autre chose. Ça peut être un vent violent qui nous fait même tomber, qui nous met dans une situation absolument étourdissante. Et c'était tellement hors norme, on va dire, que les passants, à un moment donné, dans ce chapitre 2, au verset 13, vont se moquer d'eux. Ils vont dire, mais ils sont sous, ils sont alcoolisés. Et ceux qui voyaient ça, parce que quelque part, l'action de Dieu les avait fait sortir, quelque part, des conventions sociales. Et cela nous dit quelque chose sur Dieu. Dieu ne peut pas être mis en boîte. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. On ne peut pas le contrôler. On ne peut pas décider comment il va agir comme ceci ou comme cela. Alors, le Saint-Esprit ne nous possède pas et on fait pas. On peut toujours lui dire stop. On est bien d'accord. Mais si on veut le laisser agir et faire son œuvre, on est obligé de le laisser au contrôle et pas nous le contrôler. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont de la peine avec le parler en langue parce que c'est justement être hors du contrôle. Parce que je dis des choses que je ne comprends pas. Je ne maîtrise pas. La langue, c'est une manière de maîtriser les mots, ma pensée, comment je vais faire, etc. Avec la langue, tout ce qu'on peut faire. Et là, cette langue-là, je ne la maîtrise plus, je la laisse au Saint-Esprit. Et c'est une mort de l'intelligence, le parler en langue. Et c'est une dimension du surnaturel qui est parfois compliquée. C'est pour ça qu'il y a des combats par rapport à ça, et que certains ont eu des combats par rapport à cela. Et enfin, une troisième pensée par rapport à ce qui s'est passé, être rempli à Pentecôte, c'est manifester quelque chose. Il est dit qu'ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand on est rempli de la présence de Dieu, il se passe quelque chose de visible. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, d'accord ? Et c'est pourquoi dans les moments d'action du Saint-Esprit dans nos vies, il peut nous arriver de manifester des choses qui se passent à l'intérieur. Il peut nous arriver de pleurer, il peut nous arriver de prophétiser, il peut nous arriver de parler en langue, il peut nous arriver plein de choses qui se manifestent à ce moment-là. Parce que ce qui se passe en profondeur dans mon être intérieur se manifeste extérieurement. Et cela peut être déroutant pour quelqu'un qui voit ça de l'extérieur. Alors, juste deux pensées qui me semblent importantes par rapport à Pentecôte, deux pièges qu'il nous faut éviter, nous en tant qu'Église. Le premier piège, c'est de faire de nos rencontres des choses tellement bien structurées, tellement bien rangées, tellement bien propres, pour utiliser un mot de chez nous, tellement de choses qui ne dérangent pas finalement notre culture suisse, que l'esprit ne peut pas faire ce qu'il veut. Que l'esprit qui veut des fois, pas toujours, amener un vent violent dans nos vies, il ne peut pas le faire, parce qu'il nous respecte. Ça, c'est un premier piège. À l'inverse, à l'autre extrême, l'autre piège, c'est quand on a vécu une véritable action de l'esprit, c'est qu'on va vouloir commencer à reproduire des choses qu'on a vécues, reproduire une ambiance, on va commencer à s'agiter extérieurement pour vivre des choses intérieurement, pour vivre une véritable visitation de l'esprit. Et là, quelque part, c'est la même chose. On veut créer une ambiance pour forcer l'esprit d'agir à ce moment-là. Mais l'esprit est libre. Et nous n'avons pas à créer des choses, à créer des contextes. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est de rechercher, d'aspirer, être dans cette attente d'une véritable action de l'esprit. Amen. Voilà les deux extrêmes qu'on peut rencontrer et qui peuvent juste éteindre la vie de l'esprit. J'en dirai pas plus. Qu'est-ce qui s'est passé après Pentecôte ? On en arrive à mon troisième point. Qu'est-ce qui s'est passé après cet événement de la Pentecôte ? Tout d'abord, on peut noter que cette rencontre privée, c'était une rencontre privée, ils étaient 120 disciples dans la chambre haute à prier et à attendre. Que de cette rencontre privée, elle est devenue publique. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de différence entre le privé et le public. Et ça, c'est un mensonge de notre société. Ta foi, c'est de ton domaine privé. Ça n'a rien à faire dans ton espace public. Et on voit qu'il y a un débordement. Il y a un débordement sur l'extérieur. Au verset 6, il est dit « Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Ils étaient hors d'eux-mêmes. Donc la foule de Jérusalem, les gens qui étaient là, sont venus qui n'avaient rien à voir, qui n'étaient pas disciples, sont venus, se sont approchés et ont vécu le miracle de Dieu aussi. Et on voit que la Pentecôte touche bien au-delà des murs de l'Église, mais touche le monde. Alors, pas tout le monde, on est d'accord. Certains se sont moqués. Mais la grande majorité, plusieurs en tout cas, ont été touchés, car il est dit au verset 12, « Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Vous savez, le miraculeux tourne les gens vers Dieu. Le miraculeux, l'action de Dieu, l'action de Pentecôte, amène les gens à dire « il y a quelque chose, il se passe quelque chose, Dieu existe, mais cela ne suffit pas. » Cela ne suffit pas. Il a fallu que Pierre se lève et annonce de manière intelligible le message du salut. Au verset 14, il est dit que, même le texte insiste, étonnamment, il dit qu'il éleva la voix et s'exprima en ces termes. Une lourdeur un peu linguistique comme ça. Il éleva la voix et s'exprima. C'est comme une insistance pour dire, mais grâce au discours de Pierre, en le fait de parler à ce moment-là, alors que les gens se posent des questions, les gens sont touchés à ce moment-là, eh ben, cette présentation de l'évangile va produire un fruit extraordinaire. Puisque la foule va être touchée, la foule va se repentir, la foule va croire en Jésus et devenir chrétienne. Et il est dit un peu plus loin dans ce même chapitre, au verset 41, une moisson d'âmes de 3000 personnes, une moisson d'âmes de 3000 personnes va se tourner vers le Seigneur. Nous avons besoin de la parole de Dieu, de la proclamer, mais nous avons besoin aussi de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. S'il n'y a que la puissance du Saint-Esprit, les gens voient qu'il s'est passé quelque chose. Les gens voient, mais ils se posent des questions. Qu'est-ce que ceci ? Vous pouvez prier pour quelqu'un dans la rue et qui est guéri, mais si vous ne lui annoncez pas l'évangile, ça s'arrête là. Ils se posent juste des questions et ils peuvent même se dire à la fin, c'est peut-être Bouddha, machin, les énergies qui m'ont guéri. Et sa vie ne change pas. S'il n'y a que la prédication de l'évangile sans la puissance de l'esprit, alors nous allons toucher beaucoup moins de personnes. Nous allons toucher peut-être une personne, deux personnes. Mais on voit que le fait que la puissance de l'esprit se manifeste à Pentecôte, il y a une foule qui vient, une foule qui est touchée, qui se rassemble. Et là, le miracle de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire ? Non seulement va attirer la foule, mais qu'est-ce qui va se passer ? Va ouvrir les cœurs pour recevoir l'évangile. Voilà ce que fait la puissance du Saint-Esprit. Et je suis conscient que ce n'est pas le miraculeux qui fait que vous devenez chrétien. Des gens ont vu des miracles, mais se sont approchés de Dieu, puis après se sont éloignés. Et c'est clair que c'est la prédication de l'évangile qui amène les gens à naître de nouveau. C'est ça qui fait des disciples, on est d'accord. Mais le miraculeux, la puissance de Dieu, ouvre le cœur des gens pour entendre l'évangile avec des grandes oreilles ouvertes et touche bien plus large. Vous voyez un peu là, la puissance, ce que fait produit l'évangile. Et on peut le voir que ça va être le mot d'ordre tout le long du livre des Actes. Rien que déjà au chapitre 3, le chapitre suivant, on voit que le paralytique va être guéri. Vous savez qu'il y a, vous vous rappelez ce texte où Pierre et Jean vont au temple et voient ce paralytique qu'il guérisse. Qu'est-ce qui se passe suite à ce miracle, cette action de Dieu ? Les gens accourent. De nouveau, une foule vient. Pourquoi ? Parce qu'ils le connaissent, ce paralytique, et qu'ils l'ont vu depuis des années qu'il est là. Ils le connaissent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu marches ? Pourtant, depuis tant d'années, tu es vraiment paralysé, et puis là, tu marches. Qu'est-ce qui se passe ? Qui a fait ça ? Qui ? Et là, Pierre, de nouveau, relisez. Il annonce l'évangile. Un discours incroyable. Vraiment le discours de l'annonce de l'évangile, comme un peu au chapitre 2. La Pentecôte, c'est un mouvement. J'aimerais vous faire sentir ça ce matin. C'est un mouvement qui va de l'aspiration, de cette attente, qui amène à vivre des choses et à aller. Être rempli de l'esprit afin de témoigner. être rempli de l'Esprit afin d'être porteur de ce message. Vivre la manifestation de la puissance, la puissante présence de Dieu à l'intérieur me permet de me lever comme Pierre. Il éleva la voix. Je me lève, j'ai la capacité de pouvoir annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas à l'extérieur. De la même manière qu'il y a un mouvement quand tu es rempli de l'Esprit à l'intérieur et que ça se manifeste extérieurement, puisque je dis des choses, il se passe des choses. De la même manière quand l'Église vit la Pentecôte, vit quelque chose de profondément communautaire, de fort à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. C'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. L'action de Dieu et sa puissance n'est pas là pour nous dire « Ah, c'était fort ce matin, c'était bien, il a bien prêché. Ah, puis j'étais touché à un moment donné, il y a eu cette parole, ah, c'était super. » Puis on rentre chez nous, puis on en reste là. Mais c'est plutôt de dire « J'ai vécu cela, merci Seigneur, parce que je vais être plus fort dans tel ou tel domaine de ma vie. » Parce que je vais être ton témoin en tant que parent, je vais être ton témoin dans mon travail, je vais vaincre dans tel domaine, je vais être plus fort dans tel domaine, je vais pouvoir mieux avoir la capacité de. Voilà ce que ça doit produire dans nos vies. C'est une énergie pour permettre à l'Église de réussir parfaitement sa mission. Énergie, énergie. Les pères de l'Église ont beaucoup parlé de cette énergie. C'est très intéressant les textes des pères du désert. Au IIIe siècle. Mais on pourrait dire que la Pentecôte, c'est une bombe spirituelle, une bombe nucléaire. Il y en a un qui veut envoyer une bombe nucléaire, bon, voilà, ça, c'est son truc. Mais nous, on veut envoyer une autre bombe nucléaire. Nous, on veut vivre une autre bombe nucléaire, celle qui détruit le péché, celle qui fait tomber les murs qui sont sur les cœurs de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, et qui puissent se tourner vers le Seigneur. Ah, ça ne vous réjouit pas, ça ? Moi, ça me réjouit. Moi, j'ai envie de vivre ça. Moi, j'aspire à ça. Vous savez, à Pentecôte, pour prendre une image, l'image de la voiture. Pour quelle raison est-ce que je vais à la station-service pour remplir ma voiture d'essence ? Juste pour la laisser là et la regarder. Elle est belle, ma voiture. Puis elle roule vite, hein, mais elle est belle. Hein. Et puis on la regarde simplement, on est là. Tu as fait le plein d'essence et tu regardes ta voiture. Puis c'est une Ferrari. Mon enfant, il est toujours en train de voir les belles voitures. Il me dit toujours, « Ah, regarde, papa, c'est une Porsche. » Oui, alors t'as une Porsche, mais elle n'avance pas. Le but, c'est que tu y ailles, que tu te mettes au volant. Et le but, c'est d'y aller, c'est de pouvoir être en mouvement. Alors, commençons à voir Pentecôte comme ce mouvement, ce avant, ce pendant et cet après. Et ce mouvement-là, c'est le mouvement du réveil. C'est ça. La Pentecôte, c'est le réveil. Et ça me frappe. J'imagine les disciples là, dans ce temps d'attente, est-ce qu'ils étaient en train de faire une stratégie pour atteindre Jérusalem ? Est-ce qu'ils se sont mis ensemble en disant, ce serait bien peut-être de... Comment on pourrait atteindre ? Quelle stratégie ? Quel système ? Quelle manière de faire ? Etc. Il faudrait qu'on parle peut-être plusieurs langues, parce qu'il y a des gens de partout qui viennent à Jérusalem. Il faudrait qu'on fasse des cours de langue. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je pense qu'il y avait une personne qui avait la stratégie, et c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et lui, il avait la stratégie. Et je pense que Pierre et tous les disciples ont été surpris de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Mais simplement, ils ont été entraînés dans la stratégie du Saint-Esprit qui les a bouleversés et qui a touché tout Jérusalem. Ça, c'est ce qu'on veut vivre. C'est la seule stratégie qu'on veut mettre en place. Peut-être si vous ne savez pas quelle est la vision de notre Église, la vision du Conseil, c'est ça. On n'a pas d'autre stratégie que ça. Désolé pour ceux qui espéraient que... Est-ce que vous allez intervenir dans tel domaine ou tel domaine de société ? Non, ça, c'est notre stratégie. C'est notre stratégie, être dans cette attente de l'Esprit pour que nous puissions vivre des moments de visitation de l'Esprit lors de nos rassemblements, de nos rencontres. Alors venez à nos rencontres. C'est là que le Saint-Esprit veut être déversé. Et de manière à ce que nous puissions aller toucher pas Jérusalem, mais là où nous nous trouvons, et être témoins du Christ, et entrer dans les œuvres préparées d'avance, et surtout toucher ceux qui sont perdus. Tellement de gens sont perdus. Je pense que c'est la vision de toutes les églises, en fait. C'est la vision, je crois, de l'église de Suisse, d'Europe, du monde. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Et depuis, dans toute l'histoire de l'église, c'est que des vagues de la Pentecôte. Toute l'histoire de l'église, c'est cela. Une dernière pensée, c'est que Pentecôte, c'est une fête agricole. Vous savez ça, dans l'Ancien Testament. Appelée la fête de la moisson. Je vous laisse relire ça dans Exode. Et la Bible nous dit que la moisson est là. Jésus l'a dit, la moisson est là. Qu'est-ce qu'il manque ? Des ouvriers. Des ouvriers, il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur veut nous remplir de son esprit afin de moissonner. Et avec son esprit, nous n'aurons pas une faucille pour moissonner, mais une moissonneuse batteuse. Amen. Alors que nous puissions être dans cette mentalité-là, dans cette attente-là en tout cas, et surtout entrons dans la joie de la récolte. Vous savez, quand on récolte, il y a de la joie. Parce que c'est un moment où toute l'année, l'agriculteur a travaillé et c'est le moment de moissonner. Et il y a de la joie. Et nous sommes dans cette saison-là. Jésus a dit que jusqu'à son retour, nous sommes dans cette saison de la moisson qui a commencé à Pentecôte, première fois, et qui a traversé toute l'histoire de l'Église. Et nous sommes en 2022 dans cette réalité. Et ce n'est pas un événement passé, la Pentecôte seulement, qui s'est passé dans Acte 2, qui était formidable, qui fait discuter les théologiens. Ce n'est pas seulement ça. C'est une bombe spirituelle qui a commencé en Acte 2, qui n'a fait que grandir, qui a gagné ce petit groupe de disciples, a gagné l'Empire romain, a gagné le monde. Et donc, ce n'est pas seulement quelque chose qui s'est passé une seule fois ou de temps en temps après dans l'Église primitive. Et finalement, après, ça c'est les dons, le parler en langue, la puissance de Dieu s'est un petit peu calmée. Et puis maintenant, on a la parole. Et puis l'Église était installée, comme certains l'enseignent, certains cessationnistes, certains théologiens. Non, je crois qu'au contraire, nous sommes dans la continuité de la Pentecôte, de cette première Pentecôte, et que toute l'histoire de l'Église, Dieu n'a pas cessé de donner et de répandre son esprit. Amen. Toute l'histoire de l'Église, et Dieu n'a pas cessé aujourd'hui, il n'a pas changé, et il veut encore donner, il veut encore répandre. Parfois, il l'a fait de manière plus forte que d'autres, mais il le fait toujours. Et je crois qu'au contraire, que nous allons continuer à le vivre et c'est ce que nous attendons, nous espérons. Dieu n'a pas cessé de répandre son esprit sur toute chair, comme le dit Joël, homme, femme, esclave, enfant, riche, pauvre, depuis cette prophétie qui s'est accomplie de Joël 3 et qui s'est accomplie, qui a commencé en Acte 2, Dieu n'a pas cessé de répandre son esprit sur toute chair, toute personne. Donc le défi, ce n'est pas du côté de Dieu. Le Père et le Fils envoient l'esprit et ils ne se sont pas arrêtés de l'envoyer depuis, mais c'est de notre côté. De notre côté, de notre peut-être notre capacité à attendre, à aspirer, à rechercher. Et Dieu prouvera encore son amour, encore et encore une fois, en nous envoyant encore et encore une fois son esprit afin de nous bouleverser, afin de faire tomber nos stratégies, afin que ces stratégies puissent se mettre en place dans le but, afin de, pour que, je prends plusieurs manières de le dire, que nous puissions répandre le message de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle, et surtout le vivre déjà dans notre vie, tout simplement. C'est ça l'essence de l'Église, notre appel premier. Et le but des miracles et de la puissance de Dieu, c'est jamais, jamais de dire qu'on est meilleur que les autres, qu'on a plus compris que les autres. Ce n'est jamais cela, mais c'est toujours rendre visible l'œuvre de Christ. C'est sa mission et c'est ce qu'il fait. C'est convaincre le monde de péché, de vérité et de justice. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Et si ce n'est pas l'Église qui le fait, qui le fera ? Si ce n'est pas nous qui le faisons, qui le fera ? Je vous laisse avec cette question. Si ce n'est pas l'Église qui le fait, qui va le faire ? Prions. Seigneur, merci pour ta parole encore. Prenons un temps où nous voulons aussi dans nos cultes avoir ces moments d'attente. Où voulons nous tourner vers toi. Seigneur, pardon parce que nos vies sont trop chargées. On n'a pas le temps pour un culte, c'est trop long. C'est trop ci, c'est trop ça. Tu vois, Seigneur, j'ai ci, j'ai ça. Tu vois tout ce que j'ai comme défi. Tu vois, j'ai pas le temps, Seigneur. Et on te demande pardon pour cela ce matin encore. Je te demande pardon, moi, le premier, dans ma vie, de ce que je ne sacrifie pas assez mon temps pour toi. Je n'attends pas assez tes cadeaux et ce que tu as à dire et à communiquer à ton Église. Et je veux juste me placer devant toi et te remettre notre Église, te remettre nos vies et dire, mais Seigneur, viens remplir nos vies de ton esprit, de tes stratégies et pas de tous mes soucis, tout ce que j'ai, tout ce que je pense, tout ce que je crois, toutes mes capacités humaines. Mais je veux être rempli de toi, Seigneur, ce matin. Souffle encore sur ton Église et merci parce que tu continues. Tu le fais encore, tu souffles. Il y a des vents violents qui passent partout et partout, en Europe, dans le reste du monde et ici aussi en Suisse et à Lausanne. Merci pour ce que tu fais. Amen.